Donc, nous sommes ici avec Michel Sidibé, ministre de la Santé de la République du Mali. Monsieur le ministre, tout d'abord, bonjour et c'est un plaisir de vous parler.
Bonjour Alpha, je suis très très content et ravi de pouvoir avoir cet entretien avec vous.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation par rapport à la lutte contre la pandémie de COVID-19 au Mali?
Vous savez, moi je pense que quelque part, on a su anticiper, on a organisé tout de suite une rencontre avec l'ensemble des pays de la CEDEAO, tous les ministres de la CEDEAO, pour faire le point au niveau de la sous-région, partager les expériences et faire en sorte qu'on puisse avoir une stratégie d'approche qui puisse nous permettre d'abord d'éviter l'entrée du virus. Donc, à ce niveau-là, nous avons eu la chance de mettre l'accent sur le corridor aérien. Nous avons pu au moins tenir pendant un certain nombre de jours sans cas. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que l'épidémie, elle n'est plus seulement importée. Nous avons une épidémie qui se localise, donc la transmission se fait au sein de la population. Donc, évidemment, il fallait mettre l'accent et continuer à mettre l'accent comme on l'a fait sur la prévention, la prévention, la prévention. Donc la prévention, parce qu'aujourd'hui nous avons 47 cas, nous avons bien sûr personne sur une détresse respiratoire aiguë, donc nous avons eu déjà 9 cas guéris et nous essayons de limiter au maximum la propagation du virus. Et pour faire cela, nous avons lancé vraiment 3 campagnes que nous essayons de renforcer. Et c'est d'abord la distanciation sociale, je dirais même physique, je n'aime pas ce mot de distanciation sociale, de distanciation physique, parce que la distanciation sociale, on n'aimerait surtout pas qu'elle devienne une règle. Mais nous avons surtout aussi mis l'accent sur le port du masque, parce que nous pensons que c'est très très important dans nos sociétés où on sait très bien que le problème de proximité, le problème d'être proche de l'un est très important, surtout aussi qu'il y a tous ces cas asymptomatique. Donc pour nous, le troisième point, c'est vraiment tout ce qui est lavage des mains au savon. Parce que ce sont ces 3 mesures que nous mettons en place à l'heure actuelle pour essayer de briser la chaîne de la transmission.
Au départ, comme vous l'avez dit, ce sont des cas importés. Maintenant que ce sont des cas de transmission communautaire, ça pose quoi comme défi?
Je pense que le grand défi à l'heure actuelle, c'est qu'il faut d'abord rechercher les contacts, donc faire en sorte que ces contacts, on puisse les suivre régulièrement pour faire en sorte que ces contacts n'évoluent pas vers la maladie. Et c'est aussi le danger, c'est qu'on ait une explosion. Et si on a une explosion, en tout cas en termes de nombre, c'est la prise en charge. Et cela est très difficile. Moi, j'avoue honnêtement qu'aucun pays africain ne pourrait répondre à cette pandémie en cas d'explosion exponentielle du nombre de cas parce que, tout simplement, le système de santé est fragile. Donc, si nous voulons vraiment faire en sorte qu'on puisse éviter la crise que nous voyons ailleurs, il faut continuer à mettre l'accent sur la prévention et briser la chaîne de propagation du virus. Et là, il faut d'abord faire attention. Je dis bien, il faut prendre les mesures qui ont été prises un peu partout, fermeture des frontières, l'instauration de l'état d'urgence, mais il faut aller au-delà de cela. Il faut aussi faire en sorte que les foyers d'infection, on puisse les identifier rapidement et que ces foyers ne se connectent pas les uns aux autres. Sinon, on passe tout simplement à l'explosion. Donc, pour l'instant, nous mettons vraiment l'accent sur la prévention.
Justement, pour éviter cette explosion, est-ce que face à cette densité de la population, ça demande beaucoup plus de vigilance?
Ah oui, moi je pense qu'à partir du moment où on a vraiment l'infection, elle est un peu partout dans nos pays au niveau urbain et particulièrement dans nos grandes villes. Donc vraiment, il faut arriver à aller vers une stratégie qui va nous permettre certainement de faire en sorte que ces grandes villes-là, on arrive à aller progressivement vers une stratégie de circonscrire ces villes-là, faire en sorte que ces grandes villes, on puisse les couper un peu du reste du pays pendant un certain nombre de temps. Si nous ne le faisons pas, bien sûr que l'infection va partir des grandes villes vers les autres régions. Mais cela ne suffit pas. Moi, je pense que dans nos grandes villes, les marchés, les gens vivent 90% du secteur informel. Donc, vouloir les confiner et croire qu'une stratégie stricte de confinement va marcher ne marchera pas dans nos pays. Donc, il faut aller vers vraiment, comme je disais, le port du masque. Moi, je suis convaincu que la distanciation, le port du masque systématique ainsi que le lavage des mains peut vraiment produire des effets importants en termes de rupture de la chaîne de propagation.
La semaine dernière, le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés avait attiré l'attention par rapport à l'insécurité aux pays voisins, au Burkina Faso notamment. Et face à cette insécurité, pas mal de réfugiés maliens ont affiché leur volonté de rentrer au pays. Est-ce que, à ce niveau aussi, des dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait des cas de contamination?
Oui, bien sûr, parce que je pense que ce que nous faisons, c'est que le corridor terrestre, nous essayons de tout faire pour que lorsque les gens reviennent, que les gens soient vraiment examinés, je dis bien, pas nécessairement tous testés, examinés, et faire un triage, faire en sorte que ceux qui présentent certainement des symptômes, qu'on puisse les isoler, et ensuite on puisse les confiner pendant un auto-isolement de 14-15 jours. Donc ça, c'est fait. Je sais que mon collègue même s'est déplacé pour aller sur la frontière. Mon collègue était pour voir un peu ce qui s'est passé avec le retour de certains de ces réfugiés provenant du Burkina. Mais je crois que le problème que vous évoquez est un problème qui est très important. Lorsqu'on est déjà dans une situation où moi je pense qu'on commence déjà à sentir les effets sociaux, les effets économiques, il faut faire très attention parce que nous ne pouvons pas travailler sans avoir des approches transfrontalières. Donc il faut que les pays de la sous-région travaillent ensemble et très rapidement, on va se rendre compte que le COVID-19, c'est cette perturbation des chaînes d'approvisionnement, c'est le choc de la demande que nous on voit par exemple certainement des baisses en termes du prix du coton, d'autres ce sera le tourisme, donc c'est le ralentissement des investissements, donc des pertes d'emplois. Donc il faut que vraiment on puisse anticiper, qu'on puisse avoir des programmes de soutien au niveau social et au niveau, bien sûr, humanitaire, comme vous l'avez dit, que ce soit les personnes déplacées internes, que ce soit les populations réfugiées. Donc ça, c'est vraiment une question de fond, à mon avis, et il faut surtout une solidarité, comme disait Guterres, secrétaire général, et il faut vraiment aller vers une responsabilité partagée avec une solidarité globale agissante. Et ça, à mon avis, c'est important.
Et sur le volet prise en charge des patients, on sait que malgré les réserves de l'Organisation mondiale de la santé, certains pays comme le Sénégal ou bien le docteur Raoul à Marseille semblent essayer la chloroquine sur leurs patients. Et qu'en est-il du Mali?
Bon, moi, je pense qu'on a eu cette discussion, c'est ce que je disais, le fait qu'il y ait quand même une unité de coordination au niveau de la science dans la sous-région, donc de l'ECOWAS, c'est vraiment la CDAO, donc c'est vraiment très, très important parce que chaque matin, nous avons quand même l'Organisation ouest-africaine de la santé, il y a des débats. Donc, il y a eu une note provenant de l'Organisation ouest-africaine de la santé sur cette question et avec, bien sûr, un protocole à suivre. Le Mali suit ce protocole. Dans des cas spécifiques, nous utilisons la chloroquine et, bien sûr, les antibiotiques pour accompagner. Et nous essayons de suivre le protocole aussi proposé par la sous-région.
Michel Sidibé, vous avez été un grand patron, un grand commandant en chef de la lutte contre le sida en tant qu'ancien chef de l'ONU sida. En quoi cette expérience peut vous aider dans ce combat contre le nouveau coronavirus?
Moi, je pense que cette position, bon, aucune position n'est comparable. Ce que je voudrais dire tout simplement, il faut qu'on ne soit pas frappé de myopie. Je vois une myopie dangereuse vraiment qui s'installe, chacun est s'enfermant sur soi-même, et chacun essayant de trouver une solution à son problème. Je me suis rendu compte que lorsqu'on s'est battu contre le sida, c'est lorsque on a gagné quand on n'a pas exclu, on a gagné quand on a ouvert nos portes, on a gagné quand on a pu travailler avec toutes les forces qui sont utiles. Donc la première chose, c'est vraiment pour moi la mobilisation politique, il faut le leadership politique et sans le leadership politique, on ne gagne pas. C'est ce que nous essayons de faire ici. Deuxièmement, il faut l'adhésion de la population. Il faut une adhésion communautaire. Il faut que les gens comprennent pourquoi c'est tellement important pour la survie de leurs enfants, de la nation. Donc, et troisièmement, il faut nécessairement, bien sûr, la science, la technologie, l'innovation. Et c'est, moi, je crois que c'est ce qui nous a aidés avec le sida. Et c'est la même chose ici. Il faut surtout, moi, je pense, que le monde comprenne que vraiment avoir une approche qui consisterait à penser qu'on va résoudre le problème chez soi et que le problème sera résolu, sera très dangereux parce qu'il y aura un effondrement des pays fragiles et cela va s'accompagner sur le plan économique et social par des crises énormes et cela pourrait entraîner en plus des problèmes, bien sûr, d'absence d'investissement sur le long terme qui peuvent conduire, bien sûr, à un plus grand mouvement de population, l'émigration des jeunes. Et même en dehors de ça aussi, moi je crois les crises, les violences, que ce soit la radicalisation, que ce soit tout ce que nous constatons dans notre sous-région. Et donc il faut faire attention aux conséquences de se fermer sur soi et croire qu'on aurait une solution que pour soi.
Dernière question, avez-vous reçu un soutien quelconque de l'OMS et de façon générale, qu'attendez-vous concrètement des Nations Unies, de l'OMS et des partenaires internationaux pour mieux aider le Mali à lutter contre COVID-19?
Non, moi je voudrais dire que vraiment les Nations Unies, je tiens à les remercier dès le début de ce combat. Nous avons été ensemble, et nous avons mis en place un mécanisme de coordination extraordinaire et pas plus que hier, l'ensemble des équipes des Nations Unies ont mobilisé à peu près 1,6 milliard de francs CFA pour appuyer notre réponse. Mais en dehors de l'argent, ce que nous faisons, c'est surtout mobiliser les compétences. L'OMS est à côté de nous tous les jours. Et, du point de vue normatif, nous ne pouvons pas avoir mieux que nous avons à l'heure actuelle pour nous appuyer. Mais aussi, les Nations Unies nous aident pour créer des corridors humanitaires. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible pour nous d'avoir accès à certaines zones à l'intérieur du pays sans les avions munitions, sans le partenariat avec les Nations Unies. Pour ramener le corridor, mais pas seulement humanitaire, mais pas seulement au niveau interne, au niveau de la sous-région, pour nous amener par exemple les équipements, la donation de Jacques Mar, qui était très bienvenue, il fallait le PAM qui a dû mobiliser un cargo de l'Éthiopie pour nous amener cela. Donc, je pense que vraiment dans cette crise, moi je suis privilégié et je pense que les Nations Unies jouent un rôle de pont entre nous et les partenaires techniques, de pont entre nous et les autres acteurs. Et ça, c'est très important.
Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci d'avoir parlé à la radio des Nations Unies.
Merci.